Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Les curieux nous visitent encore de loin en loin, à travers les grilles hérissées de flèches à pointe d'or, ils glissent leurs appareils pour immortaliser la façade jaune et lisse. Du petit salon, nous les observons se recueillir, échanger sourires et larmes, devant la dernière demeure d'une gloire nationale, figure du patrimoine français. Leurs commentaires nous parviennent par le micro de la caméra de surveillance. Tous s'étonnent que notre château soit si mal entretenu. Ils savent pourtant que nous n'avons pas les moyens de tronçonner les ronces et de rafistoler les murs. Les curieux disent encore que nous étions bien chanceux. Nous qui avons été élevés ici, c'est un grand malheur de voir ce que nous sommes devenus. C'est le tout début du nouveau livre de Julia Deck, Monument National, que je viens de lire. Julia Deck est ce soir notre invitée. Et comme chaque soir, nous commençons en musique, et pour elle, puisqu'il fait partie des nombreux personnages de ce Monument National, nous allons commencer en musique avec Alain Delon, accompagné de Dalida.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau. Bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure. Jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon nom.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Les paroles s'envolent et les mots restent, Julia Deck.
Oui, je ne sais pas si c'est les paroles les plus mémorables d'Alain Delon. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu.
Je crois que vous passiez votre vie avec Alain Delon quand je lis votre dernier livre.
Ah, pas toute ma vie, pas toute ma vie. Mais c'est vrai que j'ai pas mal pensé à lui. En tout cas, j'ai pensé à la stature, à l'image qu'il a, ce qu'il représente pour le public français. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour sa carrière. Donc, quand j'ai imaginé ce personnage de Serge Langlois, qui est donc le monument national, je me suis dit qu'il devait avoir la stature d'Alain Delon, même s'il est loin d'en avoir toutes les caractéristiques.
Mais Alain Delon vient de chanter avec Dalida « Parole, parole ». Donc les paroles s'envolent. Et les mots, que représentent-ils pour vous, Julia Deck? Et à partir de quand les avez-vous utilisés pour mettre en ordre ce qui s'agite dans votre tête et nous donner des histoires aussi merveilleuses que cruelles?
J'ai l'impression que les mots, c'est le moment ou l'endroit où les choses deviennent réelles, hein, où les impressions prennent forme. Et évidemment, le mot écrit, bon, il a cette capacité merveilleuse de pouvoir réagencer, réordonner le réel, un peu à la manière d'un jeu d'enfant quand on fait du roman. Il y a le plaisir de jouer avec des personnages, le plaisir de fabriquer une intrigue. C'est une manière de retrouver, par un biais intellectuel, un plaisir très très ancien. Je pense que j'ai eu envie d'écrire à partir du moment où j'ai appris à écrire, dès l'école primaire. Le chemin a été très long, mais le désir est très ancien.
Appris à écrire, c'est-à-dire appris à écrire des mots, mais appris à écrire, ça s'apprend l'écriture?
On apprend, oui. Enfin, on apprend. Moi, j'ai pas appris, j'ai pas participé à des ateliers d'écriture, bien que j'ai absolument rien contre. On apprend par la pratique quotidienne. Enfin, il y a quand même des techniques, des savoir-faire. Enfin, c'est pas parce qu'on finit un roman qu'on va savoir faire le roman suivant, mais il y a quand même ne serait-ce qu'une confiance en soi du fait d'avoir déjà publié un livre, de savoir que on a déjà accompli comme ça, terminer un projet, on finit par avoir ces manières de faire qui peuvent être un piège aussi d'ailleurs, parce que l'idée c'est de rester fidèle à soi-même sans écrire toujours le même livre, bien sûr.
Mais justement, vous en avez écrit plusieurs et chacun de vos livres est dans un registre particulier. On peut dire qu'il y a peut-être des points communs, c'est l'intrigue, le scénario, la cruauté, la drôlerie, l'humour, le sarcasme, et que vos livres baignent tous dans une atmosphère de réalité. Le premier d'entre tous vos livres, il s'appelait tout simplement Viviane Elisabeth Fauville, je dis tout simplement parce que ce titre est déjà une sorte de proclamation romanesque, et il s'articulait autour d'une histoire qui peut-être a été réelle, puisqu'il s'agit d'un patient qui va voir une psychanalyste et qui... Bon, on va pas raconter la suite, mais c'est une histoire de meurtre. Avez-vous besoin du réel pour imaginer vos histoires, Julia Deck?
Oui, j'ai besoin du réel. J'ai besoin du réel en dehors de moi, enfin du réel très contemporain, parfois de l'actualité, de situations tout à fait extérieures, objectives, peut-être d'autant plus que ça travaille des obsessions personnelles. Enfin, quand vous évoquiez tous ces ingrédients, le meurtre, mais aussi l'humour, l'intrigue, je pense que c'est des manières de faire ma propre psychanalyse en jouant avec ce petit théâtre de personnages.
Alors, il se trouve que ce premier livre, qui a déjà été remarqué au moment de sa publication, est sorti au même moment qu'un fait divers qui avait agité l'actualité et qui racontait justement l'histoire d'un meurtre d'une psychothérapeute qui avait été tuée par un de ses patients de 28 ans, un schizophrène de 28 ans. Quand tout d'un coup, quand on sort un premier roman, qu'on est totalement inconnu, comme vous l'étiez, Julia Deck, et que tout d'un coup, il y a une collision aussi violente entre la fiction que vous avez imaginée et puis la réalité, que se passe-t-il dans votre tête ?
Ouais, c'était très très troublant. J'étais vraiment catastrophée parce que je crois que c'était 5 jours avant la sortie du livre, il s'est produit un fait divers qui ressemblait... quasiment mot pour mot à l'intrigue du livre. Et oui, c'était un retournement vertigineux. Et justement, d'autant plus que j'avais imaginé cette histoire, donc le meurtre d'un psychanalyste par sa patiente, parce que moi, ça me paraissait totalement irréel. C'était, pour moi, le meurtre du psy, c'est un meurtre symbolique. Et évidemment, c'est quand on arrive à l'achèvement de son analyse. Et là, ça se passait de manière très directe dans le livre. Et il y a eu ce moment de vertige à la sortie du livre, qui était de toute façon un moment très vertigineux. Je trouve que le passage de l'écriture à la vie d'auteur, c'est quelque chose que j'ai découvert avec ce livre-là, et ça m'a beaucoup troublée, oui, de passer de l'ombre à ce moment où on est en représentation, parce qu'on représente son livre, et c'est quelque chose à quoi je me suis faite, mais au début ça a été violent, ouais.
Mais c'est-à-dire que vous êtes une sorte de prophétesse, une sorte de sorcière, une sorte de visionnaire, et que l'écriture peut précéder une réalité qui ne s'est toujours pas produite.
J'aimerais bien l'imaginer, parce que ça sera sans doute très très utile, mais surtout j'ai l'impression que c'est la preuve qu'on est toujours dépassé par le réel. Parfois souvent, même dans la fiction, on se censure en se disant c'est pas possible, c'est pas plausible, c'est pas vraisemblable. Mon intrigue, il faut qu'on y croie, d'autant plus que ça n'est pas réel. Et la réalité nous dépasse sans cesse. Enfin, il suffit de voir l'actualité récente. Qui pouvait imaginer tout ça il y a 2 ans?
Je vous propose d'écouter la voix d'un psychanalyste qui nous manque beaucoup, qui était à la fois psychanalyste et écrivain. Il s'appelait J.B. Pontalis. Il va parler des rapports entre la psychanalyse et la littérature. C'est une archive INA du mars 2010.
J'ai déplacé, ou peut-être cherché en tout cas une autre voie. Vers quoi? Vers ce que je ne connais pas bien. Parce que l'analyse, c'est pas un peu ça, c'est tout à fait ça. C'est aller au-devant de ce qui est inconnu en soi, et qui va plus ou moins se révéler, en tout cas dont on va approcher en cours d'analyse. Et avec les patients, c'est la même chose. Je le dis souvent, c'est la rencontre de deux inconnus. Quelqu'un vient me voir, je ne sais rien de lui, il n'est pas du même milieu, il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même névrose que moi, il n'a pas les mêmes fantasmes, et en un sens, il ne parle pas la même langue. Et lui, c'est pareil pour moi, il ne sait rien de moi et tout. Et la rencontre entre ces deux inconnus va naître quelque chose d'inconnu. Et la littérature, enfin ma littérature, c'est un mot un peu ambitieux peut-être, un peu emphatique pour les petits livres que je fais, ça représente ça pour moi. Je ne fais jamais de plan, je ne sais pas trop où je vais aller quand je commence à écrire, et je ne vais pas parler de ce que je connais par cœur de moi, là. J'essaye que quelque chose de nouveau apparaisse, donc c'est une autre forme tout à fait différente de la psychanalyse, hein, je ne les confonds pas. Mais une autre forme de recherche, non pas d'un centre, parce que le centre est toujours introuvable, il dérobe son propre centre, il se déplace, comme vous diriez. Mais enfin, une manière d'approcher de ce que j'ignore, et peut-être de pouvoir en dire quelque chose.
Approcher de ce qu'on ignore de soi-même, vient de dire J.B. Pontalis comme définition possible de l'écriture. On a l'impression, en lisant vos livres, et j'en reviens au premier, Viviane Elisabeth Fauville, que vous, Julia Deck, c'est aussi une forme de compréhension du réel, et peut-être aussi d'exploration d'une folie.
Oui, c'est pas... fait de manière consciente, mais c'est vrai que pour chaque livre, une situation s'est imposée. Pour ce premier livre, le meurtre du psy, et j'ai pas du tout cherché à élucider intellectuellement en quoi cette situation m'intéressait, parce que sinon, tout simplement, j'aurais pas fait le livre. Mais je sais que cette situation, elle est suffisamment forte à mes yeux, elle résonne suffisamment pour que j'ai envie de m'embarquer là-dedans avec ces personnages-là pendant 2-3 ans, le temps de l'écriture. Et oui, c'est la rencontre avec l'inconnu, bien sûr. Sauf que on pressent quelque chose de cet inconnu qui nous révélerait aussi à nous-mêmes.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une peur ou une tentative d'exorciser la psychanalyse à l'intérieur de l'écriture de ce premier livre ?
Oui, rétrospectivement, je me dis que oui, parce que j'avais fait des tentatives d'analyse, mais j'avais quand même beaucoup persisté, et c'est vrai que la démarche m'intéressait énormément. Et puis j'avais l'impression, ça faisait des années que j'avais l'impression de me heurter à un mur. Donc oui, j'ai dû me dire, moi aussi, je vais assassiner le psy, mais je vais le faire, littéralement, si je puis dire, dans le roman. Contre toute attente, ça a marché. Ça a assez bien fonctionné. Trouver une forme d'équilibre, je pense que c'est aussi lié à la parution du livre et puis au fait que j'ai enfin pu faire ce que je désirais faire depuis longtemps, mais ça m'a donné une assise que j'avais jamais connue avant.
Donc écriture thérapie, vous n'avez pas peur de vos propres obsessions et de la qualité littéraire de pouvoir les déployer sur l'espace des pages?
Je le fais quand même de façon très indirecte, puisqu'il y a ces personnages et il y a ces intrigues qui me permettent de médiatiser des choses qui sont sans doute, qui sont très personnelles.
L'écriture vous empêche-t-elle de tuer, Julia Deck?
Je suis pas sûre d'avoir des pulsions aussi criminelles, aussi intéressantes, mais bon, oui, je pense que je suis quelqu'un d'assez colérique, par exemple, et de je ressens les émotions très très vivement, et ça peut être un handicap certain. L'écriture, ça me permet de vivre des situations tellement exacerbées que, dans une certaine mesure, peut-être ça m'empêche de passer à l'acte.
Alors, il y a aussi chez vous une qualité d'écriture avec un mode d'écriture très au couteau, si j'ose dire, des phrases extrêmement courtes, un langage très épuré qui doit être terriblement retravaillé en amont, une sorte de violence aussi entre les personnages que vous avez imaginés, et il y a aussi une sorte d'addiction à vous lire, qui tient peut-être au plaisir que nous avons, en tout cas que j'ai, mais je ne suis pas la seule, à regarder le soir très tard des séries. Nous allons écouter un petit générique qui va sans doute vous rappeler quelque chose. Ah, ça vous fait sourire, ça nous rappelle notre jeunesse. Alors ouais. On fait peut-être mieux, mais en même temps, on se souvient de tout, de Sue Ellen, de tout.
Ouais,
des corps, des ambiances, des lumières, des paysages.
C'était cette grande période du soap opéra où moi j'ai découvert la télévision, mes parents n'avaient pas la télévision et c'était évidemment une grande frustration. Et
puis pourquoi ils n'avaient pas la télé? Parce que c'était des intellos qui ne voulaient pas se laisser souiller leur imaginaire.
Je ne dirais pas ça de manière aussi catégorique, surtout s'ils écoutent, mais oui, en effet, la télévision, c'était pas réputé suffisamment intellectuel, et donc moi j'avais qu'une envie, c'était de regarder la télé et surtout de voir ces soap opéras qui mettaient en scène des rapports de famille hyper caricaturaux, mais en même temps, qui n'a pas connu de déjeuner du dimanche en famille assez caricatural? Enfin voilà, ça me paraissait, c'est mettre en scène des choses vécues sur un mode dramatique, mais aussi parfois mélodramatique, voire drôle. Ça permet d'exorciser plein de choses. Donc j'ai eu un vrai goût pour Dallas, pour Dynasty aussi, où les personnages étaient plutôt mieux habillés, et puis les femmes prenaient beaucoup plus le pouvoir dans mon souvenir, tout ça dans des grandes maisons et avec des intrigues pour le coup pas vraisemblables du tout, mais j'ai fait une partie de mon éducation là-dedans.
Et ça vous a donné une forme d'écriture, en tout cas de suspense, de rebond, de possibilité de continuer la vie de vos personnages avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui leur arrivent. L'action est très importante à l'intérieur de vos romans, Julia Deck.
Oui, c'était un petit peu l'idée de ce livre-ci, c'était d'arriver à rendre, donc Monument National, d'arriver à rendre littéraire un dispositif très prosaïque, trivial, parler de la vie des people, des célébrités, enfin des sujets qui sont pas traités de front par la littérature contemporaine, mais en même temps, moi, c'est ça qui m'intéresse, qui me hante depuis longtemps, et j'ai essayé de donner une forme que j'assumais d'un point de vue littéraire chez un éditeur littéraire à des choses qui ma foi, intéressent bien des gens, hein, finalement.
Après Viviane Elisabeth Fauville, il y a eu Le Triangle d'hiver, il y a eu Sigma, une sorte de livre laboratoire extrêmement étonnant, et puis il y a eu Propriété privée. Et Propriété privée va dévoiler un nouveau pan de votre écriture, Julia Deck, c'est celui de l'observation du réel. Observation urbanistique, observation sociologique et observation psychologique. Voici comment commence le livre intitulé « Propriété privée ». Je vous cite. « J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat, en général et en particulier, quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre. » Ça, c'est la première phrase. Vous y allez fort.
Oui, bah, enfin, peut-être, je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux tuer un chat qu'un psychanalyste? Il y avait pas beaucoup de meurtres dans les deux livres intermédiaires,
non, c'est
à ma décharge.
Mais après, vous êtes rattrapé.
Oui. Alors, ce livre-là, Propriété privée, il s'agissait d'un écoquartier en grande couronne parisienne. Et c'est vrai que là, c'était le début du travail de l'extrême contemporain. Enfin, c'est un lieu qui n'existe pas, qui n'est pas nommé dans le livre, mais qui est plausible par rapport à ce que j'en ai constaté de pas mal d'écoquartiers. Et il s'agissait de montrer le contraste entre les façades absolument riantes de ces banlieues résidentielles extrêmement désirables, d'autant plus qu'elles respectent l'environnement et la vie de son prochain, le contraste avec ce qui se passe en coulisses, puisque c'est une histoire de voisinage qui commence pas bien et qui finit
encore moins
bien. Ouais.
Donc il y a un petit côté observatrice contemporaine d'une société qui se délite, et il y a une capacité d'humour à rendre corrosives les situations que vous allez nous communiquer. Je ne sais pas si c'est une proclamation romanesque que vous vous faites à vous-même, ou si c'est le processus d'écriture qui vous entraîne dans cette tonalité qui n'appartient qu'à vous dans le paysage de la littérature contemporaine.
Disons, l'humour, c'est pas un projet. L'aspect, je suis bien consciente qu'il y a un aspect ironique, voire mordant, mais je démarre pas le projet en me disant je vais faire rire, essayer de faire rire, ce qui serait sans doute catastrophique. Je suis contente quand les gens me disent qu'ils se sont amusés, qu'ils ont eu un plaisir, une légèreté à la lecture, mais quand je regarde de mon propre processus de travail, j'ai l'impression que souvent c'est un mécanisme de défense aussi. L'humour, c'est une manière de prendre des choses de biais par la tangente pour alléger des situations qui pourraient autrement être perçues comme très violentes. Enfin, dans Propriété privée, il s'agit d'un couple qui a un fonctionnement un peu particulier. Ils fonctionnent complètement en autarcie depuis, je sais plus, ils sont mariés depuis 20 ou 30 ans. Ils vont pas très bien, mais ils arrivent à fonctionner ensemble. Et quand ils arrivent dans cet écoquartier, qui a l'air absolument formidable sur le papier, ils sont victimes d'intrusions répétées par les voisins, et tout ça les mine complètement de l'intérieur. Donc ils ressentent ça vraiment comme une violation de leur espace privé. L'humour, c'est une manière d'alléger un petit peu cette situation qui est en elle-même pesante.
Je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un dont vous êtes proche, en tout cas par l'ambiance que vous arrivez à créer et aussi par l'atmosphère que vous dégagez à l'intérieur de vos différents romans et notamment pour le dernier, Monument National. C'est Jean Echenoz. Je vous propose de l'écouter à propos des étapes préparatoires à l'écriture de ces romans. Je ne sais pas si, comme lui, vous vous documentez beaucoup en amont. Nous allons l'écouter. C'était le 27 septembre 2012. Jean Echenoz.
Cette documentation, elle devient presque son propre objet, quelquefois en oubliant l'objectif qui est quand même de construire une fiction à partir d'elle. Mais c'est comme si ça posait des briques. Mais par exemple, je me souviens de ce que je vous racontais tout à l'heure sur le récit qui m'avait été fait, long récit, hein, ça durait 2-3 heures de ce voyage en bateau. Ben, ensuite, je l'ai reconstruit de façon pas très 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 marrante en effet. Mais c'était vraiment un très long récit que j'avais enregistré. Enfin, comme je l'avais enregistré au magnétophone. Après, je l'avais retranscrit et puis travaillé. Et puis et au fond de tout ça. À un moment, la personne que j'interrogeais, qui je demandais de me raconter ça, me parle d'un marin et utilise un jeune marin et il me dit, vous voyez, c'était le genre vulnérable et musclé. Moi, j'avais ces deux adjectifs, c'est très bien, ça va, ça suffit. Vulnérable et musclé, ça, à la limite, ça permettait d'effacer tout le reste parce que c'était une quand je vous disais les deux adjectifs quand ils s'entrechoquent quelquefois. Pas besoin d'aller plus loin.
Pas besoin d'aller plus loin, dit Jean Echenoz. Vous, à l'intérieur de votre écriture, il y a des variations, il y a des pérégrinations, il y a beaucoup d'espaces géographiques minutieusement décrits. Là, je parle de propriété privée, où vous décrivez admirablement les barbecues parties, la vie soi-disant bienheureuse qu'on nous promet quand on habite dans des banlieues chics et écolos, avec énormément d'humour. Mais il y a aussi, et c'est, ça se trouve aussi dans le dernier Monument National, il y a aussi beaucoup de fêlures. Les murs s'effondrent, le château s'écroule à l'intérieur du dernier livre, Monument National. Tout va bien à l'extérieur du monde, mais tout va mal. Et c'est plutôt un système d'effondrement psychologique que vous décrivez à l'intérieur de vos romans, Julia Deck.
Oui,
apparence, tout va bien.
En apparence, tout va bien, ou on essaye de faire semblant que tout va bien en apparence. Oui, visiblement, c'est cette capacité de résistance à l'effondrement dans des situations périlleuses, des situations de crise. Visiblement, oui, ça me travaille depuis longtemps. Comment est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on fait avec soi? Et puis, comment est-ce qu'on fait au dehors? Parce qu'il faut bien, continuer à avancer, à donner le change, à conserver un visage présentable vis-à-vis du monde extérieur. Enfin, c'est une question qui sans doute nous traverse tous, parce que c'est aussi la crainte que si ça s'effondre aussi socialement, mais ça s'effondrera complètement. Il n'y a plus de filet de sécurité derrière. Oui, le rapport au social, c'est vrai, m'intéresse beaucoup, et sans doute que ça fait écho à quelque chose d'intime.
La notion de désespérance existentielle parcourt aussi tous vos livres. C'est particulièrement prégnant dans le dernier, Monument National, mais ça existait aussi dans certains autres, dont notamment Propriété privée. C'est dur de vivre, de faire semblant de vivre. On fait plus semblant de vivre dans vos romans. On assure, mais à l'intérieur, ça va pas terrible.
Ça dépend desquels, je dirais, parce que dans Monument National, par exemple, il y a ce personnage, le personnage de l'épouse qui vit sa vie sur Instagram en justement essayant de donner l'image la plus brillante possible de sa famille. Évidemment que une fois qu'elle a fini de bricoler ses trucs sur les réseaux sociaux, ben elle fait face à un grand vide existentiel. Mais c'est aussi une maladie de l'époque, et elle est entourée par une armée d'employés qui, eux, je trouve, résistent assez bien à l'effondrement. C'est-à-dire, ils sont,
parce que ce sont des employés.
Peut-être, oui, peut-être que c'est une dialectique.
Ils n'ont pas le temps de vivre, eux, sur Instagram.
Non, ils sont préoccupés par les choses du quotidien. Ils sont préoccupés par la nécessité de répondre à tous les désirs, à tous les caprices de leur employeur. Ils sont assez préoccupés par des manipulations internes aussi, parce que les employés ont leurs propres objectifs, ou au moins certains, ils ont pour objectif notamment de déstabiliser le château au bout d'un moment, et tout ça les occupe beaucoup, et finalement c'est peut-être ceux qui s'en sortent le mieux. Oui.
N'en dites pas plus pour le moment, Julia Deck. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Julia, Shirley Bassey, History Repeating.
Is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke.
C'est vrai que le lien a lieu. Il y a trois corps, finalement, je dis toujours. Il y a une théorie des trois corps. Je rappelle, je suis urbaniste, aménagement du territoire, etc. Il y a le corps territorial, qui est le premier. C'est le corps de la Terre. C'est un corps, on peut pas nier. C'est un corps céleste, même, comme on dit. Il y a le corps social, évidemment, mais il n'y aurait pas eu de corps social s'il n'y avait pas eu de corps territorial. Puis il y a le corps animal ou humain, le nôtre. Et les trois corps sont reliés entre eux par la pesanteur, par la gravité, qui nous donne notre poids. Le poids que nous avons est le poids de la gravité terrestre. On voit bien sur la Lune ce qui se passe. Il y a donc là une identité corporelle du lieu. Le lieu et le lien sont liés. Et c'est la grande question de la sédentarité et du nomadisme.
Nous venons d'entendre la voix de Paul Virilio, qui était philosophe et urbaniste, qui nous laisse une œuvre conséquente sur le devenir du monde. Et si nous avons décidé de vous passer cet archive, Paul Virilio, Julia Deck, c'est parce que, en lisant vos livres jusqu'au dernier Monument National, j'ai l'impression que se déploie dans votre écriture une vision de l'avenir, ou en tout cas un présent saturé qui finalement définit notre avenir assez proche. On a parlé de propriété privée, on n'a pas parlé de Sigma, qui est un livre opératique par petits messages qui raconte l'histoire d'une société où finalement les œuvres des artistes indésirables doivent être stockées dans des musées pour ne pas être visibles par tout le monde. Dans Monument National, on nous raconte l'histoire de grands people. On peut y mettre les noms qu'on veut, mais enfin, c'est les gens qui s'affichent à la une de Paris Match et d'autres magazines de ce genre et qui vivent soi-disant réfugiés derrière les grilles d'un château. En fait, ils sont réfugiés tout court parce qu'ils ne possèdent pas leur propre existence. Donc, il y a véritablement, à travers les galeries des personnages et la géographie dans laquelle vous installez chacun de vos romans, une réflexion sur le devenir. Là aussi, oui. C'est peut-être le côté visionnaire, d'ailleurs, de l'écriture, Julia Deck.
C'est vrai que cet attachement au lieu, au décor, un attachement à un réel très, très concret, permet peut-être d'approcher les choses immédiates, de manière plus précise que si je faisais de l'anticipation, par exemple.
Mais vous êtes juste avant l'anticipation. Vous n'êtes pas dans l'anticipation.
Alors, peut-être, est-ce que je suis dans l'anticipation ou est-ce que je suis dans l'espoir? L'espoir que, comme vous disiez pour Sigma, que les œuvres artistiques puissent encore déranger suffisamment au point qu'on ait envie de les enfermer, ou l'espoir d'une petite révolution qui se profile à un moment dans Monument National. Mais ça passe en effet, oui, par des choses j'essaye de trouver des décors proches de nous, même si c'est pas des lieux que je connais personnellement, parce que bon, je me suis pas infiltrée auprès des people pour écrire ce livre.
Et vous ne vivez pas dans un château?
Malheureusement non, ou heureusement non, je sais pas. Mais j'ai visité plein de châteaux, je m'intéresse beaucoup à l'architecture, alors de manière tout à fait amateur. Mais c'est comme si les murs renfermaient aussi une vérité sur nous, sur notre temps. Mais de fait, c'est la réalité, parce que les murs, les espaces dans lesquels on vit, les espaces qu'on traverse, ils nous façonnent aussi. Et oui, il y a une manière de, il y a un écho, un jeu de miroir entre l'identité du personnage et l'identité des lieux qui est systématique et qui ne cesse de me hanter.
Il y a un petit côté espionne aussi dans votre méthode d'écriture. Vous êtes là pour nous restituer à nous quelque chose que nous ne comprenons peut-être pas. Et vous êtes là aussi pour ménager le suspense, maître mot de votre écriture, car dans tous vos livres, vos personnages vont avoir des histoires assez exceptionnelles, très cruelles en général, mais nous ne les apprendrons qu'à la fin du roman. Petit côté John le Carré aussi, John le Carré de la réalité immédiate.
Oui, John le Carré qui est un très très grand écrivain au-delà du roman d'espionnage. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup espionné dans ma vie.
Mais c'est espionner un peu... qui ?
Ben, espionner la vie. Enfin, je partage une caractéristique avec la narratrice de Monument National, c'est que j'ai grandi vraiment dans un monde d'adultes à observer les choses plutôt que d'y participer directement avec d'autres enfants.
Et vous êtes un enfant adopté, comme dans Monument National ?
Ben, pas du tout. Et alors là, j'ai vraiment pas de doute sur cette question. Sur la question de l'adoption, mais cette position où on est très près du sol et puis on observe comme ça en contre-plongée un monde qui nous paraît par moments rassurant, inquiétant et surtout souvent incompréhensible. Les adultes, les jeux de rôle qu'on joue en société, j'ai le souvenir d'avoir été fascinée par ça, et c'est vrai que souvent, je continue à avoir plus de plaisir à observer le théâtre social que d'y participer frontalement. Est-ce que c'est de l'espionnage? Je sais pas, je pense pas que ce soit du voyeurisme, mais c'est un spectacle qui cesse de m'intéresser.
Vivez-vous plus votre vie, Julia Deck, sur les réseaux sociaux que dans votre vie, vraie vie, comme on dit?
Je pense pas. Je pratique un peu les réseaux sociaux, pas de manière. Enfin voilà, je mets plutôt des choses liées à l'apparition de mes livres. Ça m'intéresse réellement de comprendre comment ça fonctionne, parce que d'abord je vois bien que pour les générations qui ont 20 ans maintenant, le monde sans les réseaux sociaux est inimaginable. Donc j'ai pas envie de déplorer ça. Oui, mais il y a bien sûr des moments où je déplore un peu. C'est lié à l'âge sans doute, mais
Vous avez quel âge ?
J'ai 47. Oui, donc j'ai quand même connu un monde sans Internet. Mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même plus intéressant d'observer tout ça que de se livrer à des leçons de morale. Donc j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et évidemment, ça prend beaucoup de temps. Donc j'essaye aussi de cloisonner. Mais non, ça m'intéresse. Enfin, comment est-ce qu'on peut créer de nouvelles sociabilités quand on est confiné, tout simplement. C'est des possibilités riches et enfermantes. Donc j'ai pas d'avis tranché, mais j'essaye de participer un peu parce qu'on peut pas non plus tout observer de l'extérieur.
Pas de leçon de morale, vous avez raison de le souligner dans votre écriture. Je vais lire un très court extrait de ce nouveau livre qui sort et qui s'intitule Monument National, pour que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre de quoi il retourne. Avant d'accéder à la semi-célébrité, Abdoul s'était longtemps cherché. Il manquait de direction, errant sans guide au Blanc-Ménil, jusqu'à ce que la chance vienne le cueillir. Un jour où il traînait près de la mosquée, on lui avait fait des propositions. Il avait écouté par curiosité, consulté la documentation sur Internet. Le jeune homme pesait mollement le pour et le contre lorsque ses talents de danseur avaient été remarqués dans un festival de hip-hop. Sa carrière dans le salafisme s'était arrêtée net, mais des traces subsistaient de ce passage à vide. Ça, c'est du condensé, Julia Deck. Observation d'une réalité, condensation de plusieurs histoires et peut-être air du temps.
Oui, alors le projet, on va dire le projet géographique de Monument National, c'était d'une part cette famille de célébrités qui vit dans un château dans une banlieue extrêmement cossue, et d'autre part un petit groupe de jeunes gens qui naviguent en Seine-Saint-Denis, qui essayent de se sortir d'un quotidien qui est quand même un petit peu limité. Et comment est-ce qu'on fait pour se sortir de sa condition maintenant? C'est le rêve de la célébrité à laquelle aspirent plein de gens. Et il y a une qu'est-ce qui est à notre disposition, qu'est-ce qui est proposé par la société dans laquelle on vit. Il y a évidemment la réussite par le spectacle, les talents artistiques, enfin toutes ces émissions de télé-réalité, télé-crochet. Donc moi, il me semble qu'on peut aspirer légitimement à sortir de sa vie peut-être par ce biais-là, d'autant que le personnage auquel vous faites référence, il a des talents de danseur, enfin voilà, c'est un pro du hip-hop. Et puis il y a aussi cette réalité du quartier où il vit, où il y a une autre forme de célébrité certainement bien moins désirable, mais qui est voilà, enfin c'est réalité de la Seine-Saint-Denis, l'extrémisme religieux, qui est pas du tout le sujet du livre, mais moi, ouais, il me semblait que ça cette tentation là reflétait aussi le cadre de vie et puis les voilà ce qui est dans l'air du temps.
Je vous propose d'écouter la voix de Nathalie Sarraute à propos de ses dialogues dans ses livres et des mouvements intérieurs dans l'écriture qu'elle a appelé des tropismes. C'est une archive INA du 26 mai 1976 et c'était au micro de Jacques Pogam.
Le dialogue est volontairement banal, mais en apparence, parce que le dialogue est justement le moment où ces mouvements intérieurs se transforment en apparaissant à la surface. Ils se manifestent à la surface à travers du dialogue qui, en apparence, est du dialogue banal. Si vous l'examinez d'assez près, il n'est pas si banal que ça, parce qu'il révèle toujours ces mouvements. Alors, si on se contente de lire les dialogues, ce qu'on fait souvent, comme nous lisions les livres quand on était enfant, on cherchait toujours les tirets. Où est-ce que ça va commencer à parler? On ne voulait pas lire la description de la savane. Trop ennuyeux, on cherchait le dialogue. Quand on les lit comme ça, on a lu par exemple Les Fruits d'or de cette manière-là, en regardant le dialogue. Alors, on s'est fait... C'était une illusion. On s'est imaginé, ce sont des conversations de cocktails littéraires. Mais si on les avait regardées de près, d'abord, jamais on ne parle comme ça, véritablement, dans un cocktail littéraire ou même dans une conversation sur la littérature. Ce sont des dialogues qui sont soigneusement choisis pour toujours révéler sous leur banalité apparente, car ce n'est qu'une apparence, des mouvements qui ne le sont pas, parce qu'ils n'ont jamais été montrés. On ne les a pas montrés jusqu'à présent. Ça ne se fait pas comme ça en plusieurs étapes. Il y a une espèce de chose, de sensation, comme des sensations poétiques, une sorte de percée de l'apparence, si vous voulez. Et alors, à un moment donné, il faut que cette sensation soit poussée assez loin, qu'elle soit assez forte. Et alors, à ce moment-là, elle pousse, si vous voulez, les mots. Elle donne un mouvement à la phrase. Elle fait trouver des images et elle se déploie jusqu'au moment où elle aboutit au dialogue. Elle aboutit ou elle n'aboutit pas, parce que quelquefois elle reste à l'intérieur. Mais quand elle aboutit au dialogue, elle projette, si vous voulez, le dialogue à la surface. Alors à ce moment-là, ce dialogue doit paraître tout à fait naturel. Il doit avoir l'apparence du dialogue habituel, parce qu'autrement... on serait hors de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est de montrer quelque chose qui, justement, comme vous le disiez très bien, paraît banal et quotidien, et qui ne l'est pas.
Nous venons d'entendre la voix de Nathalie Sarraute qui expliquait comment elle écrivait et comment elle utilisait les dialogues. Et chez vous, Julia Deck, on a l'impression que vous êtes peut-être une petite fille de Nathalie Sarraute, parce que vous arrivez à nous introduire à l'intérieur des tropismes de chaque personnage, j'allais dire presque de chaque personne que vous décrivez, notamment dans ce dernier livre, Monument National. On comprend les émois, on comprend les passions, on comprend la mélancolie. Il y a beaucoup de mélancolie aussi dans cette galerie de personnages que vous nous inventez. Mais il y a aussi... une sorte de manière de, sans dialogue, de nous faire comprendre la pensée la plus intime de chacun. Que ça soit la jeune fille dont vous parlez, qui va grandir tout au long de l'évolution de ce livre, que ça soit la mère, que ça soit le père, que ça soit le frère. Enfin, il y a une manière de fracturer l'intimité par des mots avec quelques dialogues. Comment faites-vous?
Je ne connaissais pas cette archive de Nathalie Sarraute, mais c'est vrai, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu quand j'ai découvert la littérature à l'adolescence. Et oui, cette manière de révéler les choses sous une apparence de banalité ou tout simplement sous une apparence de naturel, c'est une idée que je trouve très forte et qui m'est restée. Qui est peut-être lié aussi au fait que je me refuse à la psychologie frontale. Le rapport au personnage, il est comportemental ou comportementaliste, je sais pas comment on pourrait dire, mais je veux pas entrer dans leur tête et me livrer à des développements psychologiques, ça me paraîtrait, un peu falsifié ou artificiel, alors que bah évidemment il y a plein de grands romans qui fonctionnent sur ce mode-là. Mais c'est comme si je me sentais pas autorisée à rentrer dans la tête d'autrui, quand bien même cet autrui serait imaginaire. Moi-même, je crois plus aux personnages à partir du moment où je décris leur comportement, leurs faits et gestes dans des situations anodines quotidiennes. Et bien sûr que le dialogue à ce titre-là est extrêmement révélateur, la manière dont on s'exprime, la manière dont on fait avancer, on pousse ses pions. Et c'est un travail très très particulier, le dialogue, par rapport au passage purement narratif, parce qu'il faut donner cette impression de naturel, ou alors le lecteur est complètement sorti de l'illusion romanesque, n'y croit plus. Donc il faut continuer il faut prolonger cette impression de naturel, et en même temps, quand on écrit un dialogue dans un roman, on sait où on va. Enfin, il faut que ça fasse aussi avancer l'action, ou alors la connaissance qu'on a des personnages. Donc c'est un dosage minutieux.
On sait où on va, mais dernière question, Julia Deck, on reste là où on est. Votre château restera le socle des vies de ces personnages, car ils ne pourront pas quitter ce château, parce qu'on ne peut jamais quitter, peut-être, le socle et le territoire de son enfance.
Oui, c'est les mots du début qu'on retrouve à la fin. Je me suis demandé, c'était une des questions que j'ai eues tout au long de la période d'écriture, je me suis demandé si j'allais les laisser sortir du château à la fin, et j'ai fini par me dire que non, mais qui sait ce qui advient après le livre.
Merci infiniment, Julia Deck. Je rappelle que votre livre s'intitule « Monument national » et qu'il vient de paraître aux éditions de Minuit.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'herbolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, où sont les commerces, les glucides? Et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches reste vide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, elle est splendide. Tant de sauver grâce à vous qui sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste, un don rapide. Mais mes poches comme les rues restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur.
Et c'est avec « Sans sommeil » de Gaëtan Roussel et Alain Souchon que nous allons nous séparer ce soir. Merci à Julien Michel à la régie technique. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci Julia Deck. Je rappelle que votre livre « Monument national » vient d'être publié aux éditions POL. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément et merci bien sûr à Lilian Alaume qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Après le prochain journal, vous avez rendez-vous avec qui ? Bien sûr, avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Good Trip.